Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons passer la matinée ensemble. J'espère que vous allez bien. On va parler de chiens qui peuvent nous aider à passer à travers les épreuves de la vie. Vous avez peut-être vu au mois de décembre dernier, on a parlé de ce chien Sunday qui a donné beaucoup de courage à trois fillettes qui avaient vécu des agressions sexuelles. Et le chien, qui est un chien policier, les a aidées à témoigner sans être stressées. C'est des histoires fabuleuses comme ça. Je voulais qu'on s'en reparle. Et quand on s'est mis à rechercher autour de ces chiens qui aident les gens et qui nous aident à passer à travers certaines épreuves, on s'est rendu compte aussi qu'en matière de maladie d'Alzheimer, il y avait un projet pilote qui était en train de se mettre en branle où des chiens allaient aider des gens qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors, ça tombe bien parce que tout à l'heure, on va recevoir quelqu'un qui va nous parler des chiens Mira qui aident justement avec leurs chiens formés spécialement pour ça, des gens de tous âges. Et on aura également Jules Poirier. C'est un peu notre rendez-vous annuel avec le docteur Poirier, qui est vraiment un de ceux, un des grands spécialistes qu'on a, nous, ici au Québec. On est chanceux sur la maladie d'Alzheimer. C'est lui qui, entre autres, avec son équipe de McGill et de Douglas, a réussi il y a quelques années à trouver le principal gène en matière d'Alzheimer, là, ce gène qui touche beaucoup de patients et qui en découvre d'autres. Et puis, il est vraiment au cœur là, de la recherche. Alors, il va nous dire, d'abord, est-ce qu'il y a espoir pour les gens atteints de cette maladie? On sait qu'il y a déjà plus d'un demi-million de Canadiens qui sont atteints. On dit que dans 15 ans, ça va être deux fois plus. Alors, c'est une maladie qui fait peur. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais Marina Orsini qui joue un rôle dans une nouvelle série où, justement, on parle de le personnage principal qu'elle incarne à cette maladie d'Alzheimer à un stade précoce. Donc, on va parler de ça aussi parce que c'est ce qui inquiète beaucoup les Québécois. En première heure d'émission, parce que c'est lundi, parce que beaucoup de gens reviennent au travail, il n'y a pas juste Paul Arcand, il y a plein d'autres mondes qui reviennent au travail. Vous aviez pris, quand vous avez pu le faire, des congés, des fêtes un peu plus longs. Et là, c'est le retour. Et quand on regarde les statistiques d'emploi, moi, j'aime toujours regarder ça. Là, on voit que l'année dernière, il y a eu comme une espèce de... Le mois dernier, en tout cas. Prenons le mois dernier, parce que 2018 a été une bonne année en matière de création d'emplois, même si au Canada, mieux qu'au Québec. Mais le mois dernier, au Québec, on a créé pas mal moins d'emplois qu'on aurait pu l'espérer, ce qui fait dire aux spécialistes que l'emploi piétine. Et quand l'emploi piétine, en particulier chez les 25-54, on dit c'est stable sur un an, mais on s'attend à une légère remontée du chômage. Là, il faut commencer à regarder autour. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, puis vous vous dites, bon, ben moi, là, je commence l'année, j'aimerais ça peut-être faire autre chose. Je me cherche du travail. Ça fait un petit moment. Il me semble que j'envoie des curriculum vitae, puis que ça marche pas. Ben ça se peut que vous ayez fort raison, puis que le CV, ça soit plus la façon de fonctionner. Alors, ce matin, avec nos invités que je vais vous présenter à l'instant, on va essayer de voir comment on peut trouver le job de ses rêves. Guillaume Desnoyers est recruteur professionnel, associé principal chez Desnoyers Recherche de cadre, conseiller en ressources humaines agréées. C'est pas mal long, Guillaume? Ça?
Oui, plutôt. Bonjour, Isabelle.
Merci d'être là avec nous. Bon matin. Maxime Villemur est président directeur général de ShareBee.ca. Merci, Maxime, d'être là.
Ça fait plaisir.
Alors, ShareBee, tu nous expliques un peu ce que c'est?
Oui, ShareBee, c'est une application web, en fait, qui met en relation des particuliers ou des entreprises qui ont de l'espace en trop, comme un garage, un sous-sol, une place de stationnement. Puis, on les met en relation avec du monde qui ont des besoins d'entreposage ou de remisage. Donc, un peu comme Airbnb, mais pour l'entreposage.
C'est une start-up.
Exactement.
Que tu as lancée toi-même, il y a quoi? Combien
ça fait deux ans. Deux ans maintenant.
Oui. Et toi, bon, donc là, tu es un employeur.
Oui.
Hein, tu es un recruteur.
Oui.
Tu cherches des gens. Là, tu as tout juste 30 ans. Et tu t'étais fait même approché toi-même par un recruteur sur LinkedIn. LinkedIn, pour toi, c'est une façon mieux qu'un CV de se faire...
Oui, en fait, ça m'arrive souvent de me faire approcher par des recruteurs, soit par des startups ou des entreprises existantes ou des recruteurs que c'est leur principal travail. Oui. J'imagine que j'ai bien fait mon profil LinkedIn.
Et toi, c'est là que tu vas chercher du monde, toi aussi?
Exact. Ben, c'est une des stratégies que j'utilise personnellement. On n'a pas le budget pour pouvoir s'offrir un chasseur de tête actuellement, pour le moment. Donc, une des stratégies que j'utilise, c'est vraiment voir les candidats. Principalement, la première étape, c'est de dresser c'est quoi le candidat idéal pour notre rôle qu'on cherche. Ensuite de ça, je vais contacter directement le monde sur LinkedIn dans les entreprises ou les startups plus avancées que je respecte. qui font un peu qui ont un peu le même modèle d'affaires, puis je les contacte directement. Ensuite de ça, ça commence par un appel, puis les conversations amènent à une embauche souvent. Donc, c'est une façon d'aller chercher des candidats de qualité au lieu de
filtrer centaines de CV. En allant les prendre aux autres, finalement.
Oui, c'est ça, c'est exactement.
Est-ce que tout le monde fait ça un peu?
Oui, tout le monde fait ça, tout le monde fait ça. Ça, c'est garanti.
Guillaume Desnoyers, bon, je disais, t'es recruteur professionnel, Guillaume. Bon, tu fais du recrutement moins par CV que par contact, justement.
Ben certainement, c'est certain que aujourd'hui, on travaille nous beaucoup avec des réseaux de contact, avec des gens qu'on connaît depuis de nombreuses années, aussi avec des engins comme LinkedIn. Ça fait partie des outils de recherche là, qui sont à notre disposition. Nous, si on fait une comparaison avec ce que font nos clients, c'est qu'on va jamais afficher des postes. Là. Quand on parlait de marché caché, nous on travaille avec des recherchistes, donc c'est la job d'aller dénicher les bonnes personnes. Donc, on n'utilise pas là les sites d'affichage traditionnels. Fait quand on discutait à un moment donné de marché caché de l'emploi.
Oui, le marché caché de l'emploi. Explique un peu ce que c'est que le marché caché de l'emploi.
Dans le fond, si on regarde ce matin, on parle de juste dans les Laurentides de 6755 postes vacants. Le nombre de postes vacants a explosé.
Juste dans les Laurentides?
Oui, dans les dernières années, on est rendu à 110 000 postes vacants au Québec. Mais ce qu'il faut se dire, là, c'est que c'est pas l'ensemble de ces postes-là qui est vu, connu, su, affiché en quelque part. Parce que les organisations, bien souvent, soit ils vont faire un peu comme mon collègue, là, ils vont travailler eux-mêmes avec le réseau de contact. Donc, ces postes-là ne sont pas toujours vus. Évidemment, il faut penser aussi que 70 % de tous les emplois au Canada sont dans des PME de moins de 100 employés. Donc, ils n'ont pas nécessairement un site d'emploi très très développé, très vu, puis très efficace non plus, parce qu'ils n'ont pas cet achalandage-là. Donc, ils prennent d'autres moyens. Je veux dire, aujourd'hui, faire un affichage de poste dans un site d'emploi, là, c'est 400-500 $. Donc, ils essayent aussi là, de maximiser leurs dépenses là, de recrutement et d'utiliser des moyens qui sont autres. Puis, bien souvent aussi, les postes, quand on parle de marché caché, c'est qu'il y a des postes qui sont très, très nouvellement passé au budget. Il y a quelqu'un qui vient de quitter. Donc, il y a toujours un délai entre le moment où le poste devient effectivement soit disponible, soit dans la tête du gestionnaire, j'ai besoin de quelqu'un d'autre cette année, puis le moment où ce poste-là devient public d'une certaine façon. Mm. C'est un peu ce qui définit le marché caché.
J'aime bien cette expression, le marché caché de l'emploi, parce que ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un marché, mais on ne le connaît pas. Puis, est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre qu'on retrouve à peu près partout, dès qu'on lit un article sur comment se trouver la job de nos rêves ou comment essayer de trouver du travail dans la vie? On dit, en général, au Québec, 80 % des emplois ne sont pas affichés. C'est un peu ce que tu disais. Ben, puis on dit, bon, 80 % c'est peut-être beaucoup.
Mais... Ben, surtout dans le monde d'aujourd'hui, là, où il y a un paquet de solutions gratuites d'affichage. Les gens vont pouvoir se servir... il y a des gens qui font des affichages payants dans LinkedIn, là, mais il y en a d'autres qui vont juste se servir de leur profil à eux pour dire « je recherche telle chose ». Des gens qui vont se servir de Facebook. Emploi Québec aussi offre un site d'affichage. Fait que les gens vont se servir aussi là, de ce genre de solutions-là. Fait que 80, ça me surprendrait parce que c'est très facile d'avoir accès à des moyens gratuits. Mais je pense qu'on peut très bien s'entendre qu'il y a une très forte proportion.
Mais c'est aussi pour dire, c'est un peu ce que tu disais, puis je ne sais pas si Maxime va être d'accord, mais tu sais, 80 % des jobs qui ne sont pas affichés, qui existent, là, mais qui, dans le fond, ne sont pas médiatisés ou affichés, ça se peut dans la mesure où souvent, t'as entendu parler d'un job parce que ton ami travaille là ou pas loin ou
connaît quelqu'un.
C'est vraiment ton réseau de contact quasiment.
Exactement, parce que des deux côtés, en fait, si tu recherches un emploi, la meilleure façon, c'est de prendre avantage de ton réseau de contact existant puis d'essayer d'élargir. Parce que ton but, c'est de réduire les degrés de séparation entre la relation que t'as avec un employeur de rêve puis toi. Dans le fond. Fait que si tu vois quelqu'un, un de tes amis ou une connaissance avec qui tu as déjà collaboré sur un projet qui connaît cette personne-là, ben l'action idéale, c'est d'aller lui parler puis de lui demander de te mettre en relation avec cette personne-là, tu sais, au lieu de passer par quatre chemins ou de mettre des CV un peu dans comme une bouteille à l'eau. Là,
pour vous, les chiffres... CV, là, est-ce que ça a encore une utilité, Maxime?
Je pense que oui, c'est encore une utilité, mais ça doit pas être la seule stratégie à appliquer pour trouver un emploi. Parce qu'il y a tellement d'autres outils, je pense que ça serait stupide de pas l'utiliser, de pas envoyer de CV ou bien de l'afficher. Mais on doit pas envoyer des CV et se tourner les pouces et attendre. Parce que là, c'est sûr que ça ne viendra pas. Là.
Donc, si tu envoies un CV, il faut faire un suivi, Guillaume.
Bien, préférablement. C'est certain que...
Parce qu'il y a des gens, là, ils m'écrivent, ils me disent, « Moi, j'ai envoyé 200 CV l'année dernière, ça ne m'a rien donné. » Ça fait beaucoup de CV, là.
Ça fait beaucoup de CV.
Il faut puis... peut-être changer de stratégie.
Ouais.
En tout cas, il faut certainement...
Surtout si ça n'en a rien.
Il faut certainement se poser des questions, à savoir, bon, est-ce qu'on a fait la bonne chose?
Mais pour toi, est-ce que ça a une utilité encore?
Ben, c'est certain que nous, on sert d'un CV parce qu'on peut parler d'un profil LinkedIn ou d'une référence ou de la connaissance d'une personne qui peut avoir un profil qui nous intéresse. Mm. Ben, le CV, c'est le deuxième niveau. C'est-à-dire, on va aller voir le profil complet de la personne, ce qu'il n'y a pas généralement ou ce qu'il ne devrait pas y avoir sur un profil, ces médias sociaux qui se doit d'être plus succinct. Donc, le CV doit être un peu plus complet que le profil sur les médias sociaux. Mais c'est certain aujourd'hui que les chiffres même parlent. Là. Quand on parle de candidats qui sont référés de l'interne, là, on se dit que pour 16 candidats référés de l'interne, on en embauche un, alors que le site carrière, c'est 152 pour un.
Oh mon Dieu, attends, répète ça.
Donc, pour 16 candidats référés de l'interne, on va en embaucher un.
Qu'est-ce que tu veux dire référé de l'interne? Référé par quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise.
Qui est déjà dans l'organisation. Versus, si on prend le site web, on va faire une embauche pour chaque 152 CV. Donc, c'est certain là, que les chiffres sont du côté de travailler son réseau. Par contre, il ne faut pas rien négliger quand on est en recherche d'emploi.
C'est-à-dire, hein, donc, tu as 10 fois plus de chances quasiment de
d'avoir la job de minimiser les risques.
Si c'est quelqu'un autour de la boîte qui te dit, hey, on fait regarde dans mon au bureau, on cherche quelqu'un.
Dans la mesure où cette référence-là est positive.
Oui, ouais, exact. Mais tu sais, c'est simple. La logique est simple. Tu as embauché un employé qui est compétent, j'espère.
C'est ça.
Puis cet employé-là, qui est compétent dans son rôle, te réfère quelqu'un.
Fait que tu dis...
Il passe déjà un test, là. T'sais?
C'est ça.
Donc, pour moi, je sauve du temps. Puis le taux de succès, à mes yeux, est plus élevé.
Pour toi, ça a une valeur.
Oui, ouais, certainement.
La référence d'un employé pour lequel tu as déjà là, un a priori positif.
Ça a tellement de valeur là, qu'aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez suivi, on en parle encore de palmarès d'employeurs. Donc, les employeurs peuvent comme appliquer, soumettre leur candidature et il y a des prix donnés aux X nombre de meilleurs employeurs, tout ça. Il y a des organisations aux États-Unis qui se sont carrément retirées de ce genre de projet-là parce qu'ils réalisaient qu'ils se faisaient inonder d'un paquet de gens qui appliquaient chez eux uniquement à cause qu'on disait c'est un excellent employeur. C'est un peu comme un tirage à loterie. On dit « Ah, je vais peut-être avoir une bonne job », mais ils se rendaient compte finalement que les gens n'étaient pas nécessairement compétents, qu'ils n'avaient pas ce qu'eux autres recherchaient, qu'ils se faisaient inonder par un paquet de CV. Donc, il y a des organisations importantes aux États-Unis qui sont carrément retirées de là.
Qu'elles perdaient leur temps, finalement.
Effectivement, c'est parce qu'elles se faisaient inonder. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le monde faire ça, là, parce que je pense qu'il y a du bon là-dedans. Ça permet de faire parler de soi en tant qu'employeur puis de voir notre capacité d'attraction.
Mais, aussi avec le CV, c'est qu'il y a des grosses firmes, comme par exemple Ernst & Young et tous ceux qui ont des gros budgets, créent des bots pour analyser les CV au lieu que ce soit des humains qui le fassent. Donc là, il faut s'assurer qu'il y a les mots-clés sur le CV. Ouais. Mais ce qui fait en sorte aussi que tu peux sortir du lot en faisant quelque chose de créatif ou en t'assurant de faire des suivis. Parce que si tu envoies ton CV, dans des grosses compagnies, c'est une machine qui va l'analyser en premier.
Ah ouais.
Ouais, certainement.
Mais ça fait de nombreuses années, je veux dire.
Ouais, c'est ça, exact.
Des engins de recherche.
Tu veux dire une vraie machine, pardon, pas une personne.
Du code, ouais, exactement. C'est du
vraiment?
Code qui analyse.
Ah, ouais.
Ben ouais, puis c'est...
Il reconnaît les mots-clés dans le CV, c'est
exactement.
Ça?
Le problème, c'est que l'être humain s'adapte à ça. C'est-à-dire qu'il comprend les bons mots-clés, puis il y a des façons de s'assurer que les mots-clés ressortent dans son CV pour qu'on ressorte plus à travers ces analyses-là. Mais ça devient un jeu du chat et de la souris. Là.
Ouais.
Mais effectivement, aujourd'hui, il faut penser qu'à cause du nombre de CV, tu peux pas avoir quelqu'un qui regarde chaque CV qui rentre. Là.
Non, mais ça veut dire que... Parce que l'ordinateur reconnaît pas... En tout cas, ça m'étonnerait. Il y en a peut-être des... Mais il faudrait faire en sorte que l'ordinateur, on lui mette les données pour qu'il reconnaisse aussi les CV qui sont un peu hors normes, où il y a un peu d'humour, où la personne a voulu mettre un peu de sa personnalité, où il y a...
Ouais, ça risque d'être assez difficile, par contre.
Il
faut voir qu'un des géants du monde du commerce électronique, qui s'appelle Amazon, avait un projet d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les CV. Et là, ils l'ont scrappé, ils l'ont arrêté.
Parce
qu'ils se rendaient compte que ça reproduisait des biais systémiques.
C'est ça.
Ça créait des problèmes. Fait que oui, l'intelligence artificielle, éventuellement, ça va être quelque chose d'intéressant, mais tant qu'on ne l'a pas bien maîtrisé, l'être humain est encore utile.
Ouais, effectivement, je pense. Puis aussi, pour enchérir là-dessus, si on regarde dans 5 à 10 ans, les les recruteurs ou les employeurs, ce qu'ils vont regarder, c'est vraiment des skills comme par exemple la communication, la résolution de problèmes, des trucs qui sont difficiles pour une machine d'avoir comme...
Puis le plus important de tous, on l'oublie toujours, hein, l'habileté d'apprentissage, parce que s'il y a une chose constante dans notre environnement économique, c'est le changement. Puis ben, pour s'adapter au changement, l'être humain, il faut qu'il soit capable d'apprendre.
C'est ça.
Puis de garder ses compétences à jour, ça demande ça.
Bon, ben, mes amis, vous dites beaucoup de choses fort intéressantes. On va aller voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Vous pouvez nous joindre au 514-790-9850 et sans frais, vous nous joignez partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. Est-ce que vous avez envoyé des CV, vous, au cours des derniers mois? Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que vous cherchez le travail de votre rêve? J'ai l'histoire de Vicky fort intéressante après la pause que je vais vous lire. Vous pouvez également m'écrire à isabelle@985fm.ca. C'est vrai qu'engager quelqu'un, savoir s'entourer, trouver du travail, c'est pas une science exacte, mais il y a des trucs, puis on va vous en donner d'autres au cours de l'émission. À tout de suite, tout le monde. Comment se trouver le job de vos rêves? On parle beaucoup de plein emploi au Québec en ce moment. Tout à l'heure, mes invités, Guillaume Desnoyers et Maxime Villemur, rappelait quand même qu'il y avait 110 000 postes vacants au Québec. Vous allez dire, bon, là-dedans, c'est quoi? Est-ce que c'est des drop-in? Est-ce qu'on sait, d'ailleurs, Guillaume Desnoyers, ce que c'est?
J'ai pas regardé les statistiques récentes, mais c'est certain là, que le secteur des services est fort représenté. Il faut aussi penser qu'il y en a un peu partout. Là, on parlait de jobs en mécanique, en soudure, dans un paquet de secteurs qui sont quand même des excellents emplois. Il y en a tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts.
Maxime, toi, tu as une start-up en techno, en technologie. Des emplois, ça reste jamais longtemps, très vacant très longtemps. Là.
Exact. La compétition est féroce.
Vous êtes même obligé d'aller en chercher ailleurs, des gens, là, pour remplir les postes.
Ah, ouais, tu fais ça, toi? Oui, je fais ça.
Ouais? Ouais. Tu vas où?
Tu veux dire, je contacte directement sur LinkedIn, par exemple?
Est-ce que tu vas chercher des gens à l'étranger, comme on a vu?
Pas pour le moment. Non, c'est sûr. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'avantages pour une start-up de technologie de rester au Canada. Il y a énormément de crédits de recherche et tout. Là.
En innovation.
Oui, exactement. Même si on va aux États-Unis, on va opérer aux États-Unis, tout ce qui est produit et technologie va rester au Canada.
Il faut penser qu'aller chercher des emplois à l'étranger, ça peut être coûteux puis ça peut être long.
Ah non, il y a des coûts.
Effectivement, malheureusement, ça peut être assez difficile.
Oui, c'est surtout les grandes entreprises qui le font.
Il faut avoir les moyens, je pense.
Effectivement, comme Ubisoft. On a Damien avec nous qui nous appelle au 514-790-9850. Bonjour Damien.
Bonjour.
Vous, je pense que vous avez un enjeu pour vous trouver du travail. Vous avez une question, entre autres, à mes invités.
Oui, ben moi, dans le fond, j'ai une technique en travail social, donc je suis technicien en travail social, et je recherche un emploi idéalement dans le système de la santé. Donc, j'envoie beaucoup de CV, j'ai un profil aussi sur LinkedIn, et j'ai aussi un handicap visuel. Donc, je me demande jusqu'à quel point ça peut m'être défavorable. Et surtout, quand le présenter versus quand ne pas le présenter.
Mm-hmm. Guillaume Desnoyers, là-dessus?
Ben, c'est certain que ça dépend du degré de votre handicap visuel. Ça va dépendre aussi du genre de poste, là. Mais il existe des ressources. Je pense qu'on les connaît pas assez bien, qui peuvent aider les gens en recherche d'emploi. Je pense, dans votre cas, il y a un club de recherche d'emploi dans la région de Montréal qui s'intéresse aux gens qui ont des handicaps. Je pense que c'est AIM Croix. Là. Je ne sais pas si je fais erreur, mais si vous faites une recherche sur les clubs de recherche d'emploi, vous allez voir, il y a des gens qui ont un mandat spécifique de vous donner un coup de main.
Oui, exactement. Je fais affaire avec eux.
OK.
Déjà.
Et est-ce que ça vous aide un peu?
Ça m'aide un peu, mais le problème, c'est que les différentes entrevues que j'ai faites, ça demandait soit des voitures ou soit être en mesure de se déplacer dans les hôpitaux ou dans les centres de jeunesse.
Oui.
Donc, c'est ça, c'est plus complexe. Donc, un poste qui aurait besoin juste d'un poste fixe ou qui soit téléphonique, d'un, c'est très, très rare. Puis de deux, il y a beaucoup de personnes qui postulent. Donc, est-ce qu'ils vont juste se dire, OK, là, on a un poste qui est compatible avec une personne qui vit avec un handicap, on va prioriser la personne qui vit avec un handicap.
Ouais.
Mais ça, ce serait idéal.
Mais il y a plusieurs organisations aujourd'hui là, qui ont des enjeux et qui ont des devoirs en matière de diversité. Moi, je pense que j'essaierais de m'intéresser à ces programmes-là parce que aujourd'hui, on a de plus en plus de législation là, qui amène les organisations à devoir faire une place à des vétérans, à des gens qui ont des handicaps, évidemment une diversité culturelle. Donc, écoutez, je suis pas un spécialiste de ce secteur-là, là, mais je suis convaincu qu'il y a certaines organisations là, qui ont ce genre d'obligation ou en tout cas d'engagement social à intégrer des gens là, qui peuvent être à la fois fonctionnels, le milieu du travail, mais aussi qui ont un handicap.
Surtout qu'il y a, il y a des programmes aussi où tu peux avoir certains crédits d'impôt là, par rapport à des employés qui ont des enjeux spécifiques. Donc, écoutez, bonne chance,
mais moi,
Damien.
Si j'étais je le mettrais de l'avant, le handicap.
Oui, c'était ça sa question, en fait, tu as raison.
Je le mettrais de l'avant. Je pense que c'est important de le dire. Évidemment, pour éviter aux gens aussi d'avoir une surprise, s'ils le savent en toute connaissance de cause, peut-être que vous allez avoir moins de rencontres, mais peut-être que les rencontres que vous allez avoir vont être plus fructueuses.
Bon, et Damien, peut-être, quel est votre niveau de handicap visuel?
Je suis non-voyant complet. Par contre, sur le site du CIUS, quand je fais mon application, oui. Il y a une petite case où c'est marqué est-ce que vous vivez avec un handicap ou pas.
Oui.
Donc, c'est marqué. Quand ils me convoquent en entrevue, ils le savent.
D'accord. Donc,
est-ce que vous travaillez en ce moment?
Non, je suis en recherche d'emploi.
OK. Avez-vous déjà travaillé dans un poste?
J'ai fait des stages qui ont été très, très, très fructueux. Là. J'ai été un an à l'Institut national canadien pour les aveugles comme intervenant social. Mais autrement que ça, non.
Ouais, ben écoutez, on va vous souhaiter bonne chance, Damien. Merci beaucoup de votre appel. Bonjour, Armand.
Bonjour.
On vous écoute. Est-ce que vous cherchez le job de vos rêves, vous, en ce moment?
Présentement, je suis très bien où je suis, mais je suis toujours ouvert à la job de mes rêves.
Oui, oui, oui.
J'ai une question pour vous inviter à propos de LinkedIn.
Oui.
Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que quelqu'un va voir une offre d'emploi sur LinkedIn, ça demande à nos contacts de nous référer pour ce poste, justement. Ça m'est arrivé avec des contacts.
Bien, effectivement, vous avez accès, si je me rappelle bien, là, parce que je ne me cherche pas du travail sur LinkedIn, donc je ne l'ai pas vu dans ce sens-là. Mais je pense que ça vous donne les gens que vous connaissez dans cette organisation-là, ce qui est une belle source d'information. Mais moi, si j'étais à votre place, puis que je veux me faire référer, j'entrerais directement en contact avec ces gens-là pour leur expliquer le contexte et tout ça. Je pense que ça serait plus profitable que juste le faire de façon automatique.
Exact. Mais votre inquiétude, non. Je pense, Armand, c'est que vous voulez pas que tout le monde le sache, c'est ça?
Exact, parce que j'ai l'impression que moi, ça m'est arrivé que LinkedIn me demandait de suggérer un de mes contacts pour le poste que la personne avait été voir. Donc, je suis pas certain que c'est vraiment bon pour la personne qui va voir le poste.
Ben, ce que vous pouvez faire aussi, c'est contacter la personne directement par message privé. Ça pourrait être une option. Ce qui est avantageux avec LinkedIn aussi, c'est que vous pouvez lister vos aptitudes, puis vos amis peuvent voter ces aptitudes-là. Donc, ça donne un élément de preuve sociale qu'on retrouve pas sur un CV qui est inerte et sans vie. Donc, le profil LinkedIn, il est plus en vie.
De preuve sociale.
Ouais.
Ah ouais.
C'est peut-être un anglicisme de social proofing, mais...
Ça serait quoi l'espèce de concept?
Dans le fond, il y a encore plus des risques qui se fait parce que s'il y a 100 de vos contacts qui disent que vous êtes compétent dans cette aptitude-là, ça amène une valeur ajoutée à votre profil. C'est plus dynamique qu'inerte comme un CV.
Guillaume, veux-tu rajouter quelque chose?
Écoutez, je comprends qu'effectivement, c'est une fonctionnalité de LinkedIn. Par contre, moi, je regarde jamais ça là, en recrutement. Mais je voulais juste dire à monsieur aussi là, que il y a différentes fonctions de confidentialité dans LinkedIn. Ça évolue assez rapidement. Là. Donc, il y a différentes fonctionnalités qui viennent et qui vont. Moi, je vous invite à regarder puis à questionner des gens qui s'identifient comme étant des spécialistes. Là. Je pense à mon ami Mathieu Laferrière, qui a un site sur lequel... vous pouvez aller chercher des tonnes d'informations sur comment vous assurer effectivement là, que vous gardez votre confidentialité, là, parce que ça peut être effectivement assez embêtant que tout le monde apprenne que vous cherchez un job sur LinkedIn. Là.
Effectivement. Merci, Armand. Il y a Joanne qui me dit, pourquoi un employeur qui nous fait passer une entrevue, qui nous dit, on va vous rappeler pour vous donner une réponse, pourquoi il ne le fait jamais? Elle dit, je sais que ça signifie que j'ai pas le poste, là, mais comment s'améliorer si on n'a pas de feedback de la part de l'employeur qui nous a passé une entrevue? Puis je trouve que c'est un très bon point. On en discutera après la pause. Ça va se joindre à nous également Micheline Bourque, qui est fondatrice du Club de lecture Affaires, présidente, et qui elle aussi sait comment faire aller son réseau. Bien sûr, vos commentaires au 514-790-9850. Ben, je vous disais qu'il y avait l'histoire de Vicky que je trouvais intéressante tout à l'heure dans la catégorie « Comment se trouver le job de vos rêves ». Ben, Vicky me raconte « J'ai décidé de quitter mon emploi après 20 ans chez le même employeur, ce que je comprends. J'ai envoyé mon CV à 14 entreprises. Donc, j'imagine que Vicky les avait bien ciblées. J'ai mis mon CV en ligne également. J'ai été contactée par 4 agences. j'ai eu 5 entrevues en personne, 4 téléphoniques. Et vendredi, 10 minutes après une entrevue, j'ai reçu une offre. Ils m'ont offert plus que ce que j'avais demandé. Alors, même à 50 ans, c'est pas vraiment difficile. Lorsque tu as de l'expérience, c'est plus facile. Alors ça, je trouve que c'est un beau message encourageant. Bravo, Vicky.
Elle est dans quel domaine,
Isabelle? Ben, elle l'a pas précisé. Okay. Vous pourriez, si vous êtes toujours à l'écoute, Vicky, répondez peut-être à cette question. Dites-moi dans quel domaine vous êtes. Mais ça montre aussi, parce qu'on fait souvent des entrevues avec des gens qui ont plus de 50 ans puis qui nous disent, mon Dieu, que c'est difficile de se trouver de la job après un certain âge. C'est vrai que je pense qu'il y a un certain âgisme au Québec. On privilégie les jeunes. Pour toutes sortes de raisons. On pense aussi peut-être qu'on va être obligé de moins les payer. Il y a ça aussi là, qui rentre en ligne de compte. Est-ce que c'est toujours vrai? Pas toujours le cas non plus, là, Guillaume.
Ben ça dépend. Il faut penser que la plupart des échelles salariales sont basées sur l'expérience. Là. Donc, ouais. Effectivement, il y a un certain...
Si t'en as moins, tu payes moins, mais...
Ouais. Faut penser que ça rentre en considération. Par contre, je veux dire, une équipe juste de jeunes, parfois, ça donne pas nécessairement d'excellents résultats. Je pense que ça prend une diversité.
Puis les jeunes, ils se laissent pas faire maintenant. Ils savent aussi ce qu'ils veulent, là. Surtout en techno, dans ton domaine, Maxime, j'imagine.
Ouais,
il y a
beaucoup de compétition.
Ils savent combien ça vaut.
Ils connaissent
leurs valeurs. Ouais. Avec nous, Micheline Bourque, qui est maintenant présidente et fondatrice du Club de lecture Affaires. Elle a été fonctionnaire fédérale pendant 10 ans. Puis là, elle s'est lancée. Elle est à son compte. Bonjour, Micheline.
Bonjour, Isabelle. Bonne année. Ça me fait plaisir de te retrouver.
Merci. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Micheline, tu vis de contrat en contrat. T'es pigiste, hein?
Oui,
Pour toi, le réseautage, c'est le nerf de la guerre. C'est la clé de voûte, là.
Absolument. Je veux dire, sans réseau, je serais vraiment très mal pris. Je suis à mon compte là, depuis 23-24 ans maintenant, puis mon réseau m'a toujours donné les mandats, les possibilités, les conseils, les ouvertures que je recherchais, et c'est encore le cas. En fait, je dirais même plus que jamais.
On dit souvent « fais ton réseau ». On l'entend beaucoup, cette phrase-là. On fait référence au marché caché de l'emploi, où on dit qu'en fait, une majorité d'emplois, on les connaît pas, ils sont pas forcément affichés ou on n'est pas au courant de l'affichage. Ces emplois-là, ils se parlent, ils s'échangent de bouche à oreille. C'est un tel qui connaît un tel. Mais faire son réseau, là, Micheline, ça veut dire quoi, là? Comment on s'y prend pour faire son réseau de façon efficace?
Ben, je pense que c'est un projet de vie, hein, parce que des réseaux, on en a naturellement dans nos vies personnelles aussi. Notre famille fait partie de nos réseaux, nos cousins, nos cousines, nos amis, tout ça. Mais en affaires, ça se bâtit, bien sûr, à partir du travail. Lorsqu'on est plus jeune et on commence à travailler, mais c'est les premières opportunités de créer un réseau. Mais il faut le nourrir, le réseau. Et pendant longtemps, moi, je me donnais comme défi d'aller rencontrer des personnes nouvelles de façon régulière. Mmh. Donc, ça donne l'occasion de te présenter, d'exprimer là où tu es rendu, ce que tu recherches, et de découvrir des nouvelles personnes. Donc, je pense qu'il faut garder ça en vie. Il faut toujours aller vers des nouvelles personnes tout en nourrissant les personnes qui font, entre guillemets, partie du réseau au fil des ans. Pour moi, si j'ai besoin de conseils, si j'ai besoin de savoir s'il y a certaines opportunités, si pour une multitude de raisons, mais j'ai un carnet téléphonique assez bien rempli qui me permet d'aller de l'avant.
Mais quand tu dis « je me forçais là, à aller à des rencontres », ça veut dire quoi, là? Tu t'inscrivais,
t'allais... Des personnes qu'on a rencontrées dans un contexte social ou d'affaires et avec qui on fait un suivi. Ça peut être aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Moi, je connais beaucoup de gens que je n'ai pas encore rencontrés grâce aux réseaux sociaux, notamment LinkedIn dont vous avez parlé tout à l'heure, et Facebook aussi pour ce qui me concerne. Mais là, c'est Twitter et tout ça. Donc, on développe des contacts comme ça. Ça peut sembler superficiel, mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des éléments communs. Et à un moment donné, ben on se dit peut-être que cette personne-là, j'aimerais d'approfondir ma connaissance de ce qu'elle fait et de lui donner l'occasion de me connaître davantage aussi. Et à ce moment-là, on peut organiser des rencontres en physique ou virtuelles où on peut se voir plus proprement. Là. Donc, c'est dans ce sens-là, je pense, c'est d'aller vers des nouveautés. Ça peut être des gens qui ont des expertises qu'on connaît moins ou qui travaillent dans des entreprises qu'on voudrait connaître davantage. Donc, il peut y avoir une multitude de raisons, mais pour moi, c'est important de toujours augmenter son réseau, toujours l'accroître.
Il ne faut pas être gêné. Hein? Faut pas être gêné, Micheline. Il faut se forcer.
Pas.
Faut se forcer un peu. Là.
Il faut provoquer. Il faut provoquer des rencontres. Il faut sortir de son bureau. Il faut sortir de chez soi. Il faut. C'est comme ça qu'on va aller.
Ça, c'est
rencontrer.
Dur pour l'entrevue. Tu sais, on.
Ben oui, mais c'était facile.
On se disait avant l'entrevue, je pense, hein, c'est Maxime Villemur, mon invité de Sherby.ca, qui disait les jobs qu'on va privilégier, c'est la communication. Hein. Je pense qu'on n'était pas en onde quand
exactement.
Tu parlais de ça. Alors, les communicateurs, là. Si t'es communicateur puis que t'es en plus super sociable, t'as pas trop de problèmes à aller voir quelqu'un que tu connais pas puis dire hey, salut, moi, j'aimerais ça que tu fasses partie de mon réseau. Mais il faut être en forme, il faut avoir pris ses vitamines le matin, puis il faut se dire
faut
OK, j'opère aujourd'hui. Mais il y a des matins où tu te dis hey, là, ça me tente-tu, moi, d'aller faire mon réseau à matin? Là.
Faire du réseautage debout, hein? On dit souvent que c'est des 5 à 7, des déjeuners, des dîners où on va participer. Ouais. Mais aussi des échanges. Hein, je pense, comme Micheline le disait, c'est bien beau à faire des contacts, là, mais si on fait un contact, puis 3, 4 ans, 5 ans plus tard, il ne s'est rien passé, c'est mort. Là.
Micheline. Il n'y a pas de relation. Ouais. Micheline?
Exactement. Oui, c'est ça. Puis je veux dire, tu sais, vous parliez du marché de l'emploi caché. Là, c'est 80% des emplois là, qui ne sont pas affichés. Donc, dans un contexte de recherche d'emploi, ben, on n'a pas le choix d'aller de l'avant puis d'essayer de savoir où sont ces emplois-là. Et il faut cibler les gens de notre réseau pour qu'ils puissent nous aider à ouvrir certaines portes, le cas échéant, pour aller chercher l'information qui nous manque. Là.
Puis, mais là, tu dis quoi concrètement? Parce que j'aime ça que ça soit concret ce matin, notre affaire, pour vraiment aider les gens avec nos trucs. Là, tu dis quoi? Que là, j'ai entendu parler, il y avait telle personne qui peut peut-être être un client potentiel pour toi. Hein, Micheline, toi, t'es
en... ou un mandat, peu importe. Hein.
Un mandat
mais
en gestion.
Dire, regarde, moi, j'ai envie de faire telle chose ou ça me tenterait d'aller vers des nouvelles opportunités. Est-ce qu'il y a des choses chez vous où votre entreprise m'intéresse? Est-ce qu'on pourrait se rencontrer le temps d'un café ou d'un lunch ou peu importe?
Mais comment savoir que tu vas payer le lunch à la bonne personne?
Ouais, ben ça c'est le défi. Hein,
ça c'est l'autre affaire là, tu sais, ça coûte cher en lunch à la fin de la semaine. On sait que les lunchs d'affaires, ça là, quand tu fais pas une scène encore, les lunchs d'affaires, ça coûte un petit bras.
C'est pour ça que quand on commence en réseautage ou en affaires, on veut d'aller déjeuner.
Puis aussi, je pense un point pour développer une bonne stratégie, c'est vraiment de voir c'est quoi premièrement son emploi de rêve, bien définir où est-ce qu'on se projette dans 5 ou 10 ans. Puis ensuite de ça, voir c'est quoi. Puis là, il y a Facebook, il y a plein de sites comme Meetup.
Meetup?
Il y en a plein.
C'est
des,
quoi, ça?
C'est des sites où il y a des événements dans la vraie vie, dans le vrai monde, mm-hmm. qui se créent autour de thématiques comme par exemple produits, technologies. Ça peut être n'importe quoi. Tel type de langage de code, par exemple. Donc, bien définir c'est quoi, où est-ce qu'on veut aller. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, aller à ce genre de rencontre-là, puis réseauter avec ces gens-là. Parce qu'on peut, perdre son temps aussi. On peut aller partout, puis perdre son temps, dépenser
faut
beaucoup d'argent, payer des cafés,
etc.
Mais tu sais, l'important, c'est bien comprendre c'est quoi, où est-ce qu'on veut aller. Puis ensuite de ça, bien cibler les rencontres, puis les événements.
T'en fais-tu beaucoup, toi, de lunch?
Pas beaucoup. Je sais bien. Parce qu'on peut vraiment perdre son temps.
Et son argent.
Toi, Micheline, qu'est-ce qui marche, là? J'allais dire à tout coup, mais là, peut-être j'en demande.
Mais c'est sûr que moi, je veux dire, ça fait 24 ans là, sur mon compte. Donc, mon réseau est assez étendu. Mais je continue toujours de rencontrer des gens nouvelles, surtout avec mon projet de club de lecture. Ça m'a permis d'aller vers un monde complètement nouveau. Et moi, j'utilise beaucoup Skype pour des rencontres. Donc, tu sais, on y va par étapes. On rencontre des gens dans des événements où on peut les solliciter directement sur les réseaux sociaux, apprendre à les connaître. Et les gens, en général, si on a des choses à dire, ils vont nous écouter. Ils vont être réceptifs. Si on a quelque chose à leur proposer comme discussion qui est intéressante pour eux. Mais les gens n'ont pas de temps à perdre non plus, on s'entend. Là. Donc, il faut bien se préparer, il faut bien cibler, comme votre collègue le mentionne. Il faut être d'attaque et vraiment bien se préparer pour que quand on a la chance de parler à la personne à qui on veut parler, bien, qu'on ne rate pas cette opportunité-là.
Ouais.
Que ce soit par Skype, que ce soit en personne ou en déjeuner, à mon avis, tous les scénarios sont possibles. Ça dépend vraiment des personnes et de l'industrie dans laquelle on vit. C'est pas toutes les entreprises qui permettent aux employés de parler par Skype, mais de plus en plus, on le voit.
Oui, il y a Facebook Live,
il y a
plein de possibilités de le faire à distance. Mais Micheline, toi qui es... Bon, c'est sûr que ça fait plus de 20 ans que tu es à ton compte, mais pour quelqu'un qui commence un réseau, là, as-tu quelques trucs?
Ben c'est ça, c'est de se manifester, c'est d'être présent, c'est de nourrir les réseaux qu'on a. Donc, les réseaux virtuels, c'est des bonnes opportunités. LinkedIn est une belle occasion. Beaucoup de gens acceptent de prendre de nouvelles relations et de nouvelles connexions. Et ça devient à ce moment-là une façon de présenter des contenus qui vont interpeller. Ça, c'est un enjeu en soi.
Est-ce que tu écris sur LinkedIn, voici, je me cherche du travail ou des mandats dans tel domaine carrément?
Moi, je n'ai pas vraiment fait ça. Je vais y aller plutôt par les personnes que je connais. Je n'ai jamais fait ça. Moi, je n'ai jamais vraiment cherché.
Fait que tu n'exposes pas le fait que tu cherches du travail maintenant. Tu vas plutôt y aller en proposant des contenus. Ça, c'est intéressant.
C'est ça, pour moi. En tout cas, à ce moment-ci de ma vie, là, je ne suis pas une jeune débutante, mais quand j'ai débuté, il fallait réseauter. Tu faisais partie de 4-5 organisations. Tous les soirs, c'était les cocktails et tout ça. Ça peut être fatigant. Puis, effectivement, on collecte des cartes d'affaires, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces cartes-là après?
Mais ça, donc, est-ce que ça vaut encore la peine?
Est-ce
que ça vaut encore la peine, ça, d'après toi?
Oui, dans certains contextes, ça vaut la peine d'aller parce qu'on rencontre des gens. Puis la rencontre physique a son impact.
Okay. Hein.
Quand on donne la main à quelqu'un puis qu'on se garde de yeux à yeux, ça a son impact aussi. Notre façon de se présenter, notre façon de parler, il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en jeu qui vont faire qu'on peut créer une bonne impression. Et ça peut être beaucoup plus marquant qu'un post sur LinkedIn. Là.
Voilà. Hey, merci beaucoup, Micheline. Ça en prend. Puis des fois, il faut se donner un petit coup de pied dans le derrière pour se forcer. Hein, je comprends bien ça.
On n'a pas le choix, c'est la vie.
Ah, c'est ça.
Il n'y a pas de facile.
Voilà. Merci beaucoup, Micheline Bourque.
Merci à toi,
présidente fondatrice du Club de lecture Affaires. On va s'arrêter ici. Vos commentaires après la pause, bien sûr. Dites-nous si vous cherchez le job de vos rêves. 514-790-9850. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. À tout de suite. Bonjour, Claude.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes dans un emploi en ce moment?
Oui, j'ai finalement trouvé quelque chose. Ça m'a pris presque 7 mois. J'ai été propriétaire d'une entreprise avec 100 employés pendant 15 ans. J'ai vendu ça. Après ça, j'ai travaillé 15 ans pour la même entreprise. Puis il y a eu une restructuration. Ça m'a pris un petit peu plus de 6 mois. À bout de ressources, ben là, j'ai accepté quelque chose. Mais je me suis rendu compte que, un, mon âge, j'ai 60 ans. Puis les gens voient beaucoup, on n'en parle pas, je pense, assez, mais la surcompétence aussi est là.
Ouais.
Les gens ont peur que, bon, j'étais gestionnaire, je vais m'ennuyer à un emploi, etc., etc. J'ai eu le commentaire que, bon, regarde, oui, tu serais un bon candidat, mais ce ne serait peut-être pas un poste qui va te motiver.
Ouais, mais ça, si vous voulez mon avis là-dessus... Hein. Pour moi, c'est de la bouche. C'est pas.
Oh, je sais que c'est de la grosse bullshit.
Ouais, parce que, écoute, on te donnera pas la job, on a peur que tu t'ennuies. Voyons donc. Essaye-moi, tu vas voir que je suis pas ennuyeux. Non, mais sincèrement, ça, c'est comme quand t'es dans un couple, puis l'autre te dit, écoute, c'est pas toi, c'est moi. Là. c'est comme. Je trouve que c'est faux comme. Je sais pas, Guillaume,
mais. Il y a différentes choses.
C'est surtout parce qu'il y a 60, puis probablement qu'on se dit, ouais, 60 ans, monsieur, vous n'êtes pas à la retraite.
Mais c'est quand même bizarre.
Non, moi, j'ai encore l'intention de travailler.
Non, mais justement, c'est ça, je veux dire. C'est ça qui n'a pas de bon sens, là, Claude. Bon. Vous avez encore l'intention de travailler, puis vous avez une voix de 40 ans, effectivement. Mais les gens, dans leur tête, se disent 60 ans. Il est sur le bord de la retraite, c'est ça que le monde se dit.
Mais c'est quand même paradoxal parce que ce qu'on sait du marché aujourd'hui, c'est que même les plus jeunes ne restent pas longtemps en poste. Là. Donc de ramener ça en disant à quelqu'un, on a peur que tu quittes en dedans de 3 ans, ben guess what?
La moyenne, c'est pas comme 1,5 ans ou 2 ans.
C'est ça.
C'est la norme aujourd'hui des moins de 30 ans.
Mais il y a des biais, il y a des préjugés qui subsistent encore. C'est certain que dans plusieurs cas, ça peut être un inconfort du patron. Là, je veux dire, le patron qui est moins expérimenté, peut-être qu'il se sent pas à l'aise d'avoir quelqu'un de plus expérimenté que lui dans son équipe. Il y a plein de choses qui vont expliquer ce genre de situation.
C'est ça que tu devrais chercher.
Ben, exact. Un bon gestionnaire, oui. Un bon gestionnaire, il veut que ses gens soient plus forts que lui.
Meilleur
il veut vouloir
lui.
Les aider.
Ben, tellement.
Mais malheureusement, c'est pas toujours là. Quoi.
Ouais,
en tout cas, il faut croire.
Merci, Claude. Yannick, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Ben, écoutez, moi, je suis en recherche d'emploi et puis je ne sais plus comment m'y prendre parce que j'ai 52 ans, je ne suis pas vieux. J'ai une maîtrise en informatique, 28 ans d'expérience. J'étais cadre dans des entreprises bien connues. Puis, j'arrive pas. Ça fonctionne pas. Puis,
pourquoi?
Monsieur qui fait l'argent. Ben, premièrement, je suis pas parfait bilingue, ça, c'est une chose. Mais je me dis, je peux pas croire qu'au Québec, je suis pas capable de trouver un emploi qui ne demande pas d'être parfait bilingue. Puis, en même temps, j'ai, à un moment donné, le découragement me frappe. Donc, j'applique sur des postes moindres. Puis, même les chasseurs de tête,
me disent à un moment donné, mais là, tu peux pas demander de ce salaire-là, c'est pas assez. Mais moi, j'ai dit, moi, je veux la job. Je m'en fous du salaire, je veux la job. Donc, je me fais même reprocher par des chasseurs de tête de pas demander assez. Ou, par exemple, comme le monsieur précédent disait, je me fais dire trop d'expérience. Mais là, moi, je laisse pas ça comme ça. Je relance. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est parce que trop d'expérience veut dire qu'après 3 ans, comme vous avez dit vous-même, un de vos invités, vous allez quitter. Ça me fâche, parce que je me dis, qu'est-ce que t'en sais? T'sais? Puis là,
trois ans, c'est loin de toute façon, là, regarde.
Mais oui.
C'est un peu ridicule.
C'est frustrant, puis c'est dur pour l'estime. J'ai eu des entrevues, puis l'estime, là, je suis même rendu, je veux que je change ma carrière. Il y a des gens qui me disent, voyons, Yannick, t'as 25 ans, 27 ans d'expérience, 28 ans. J'ai travaillé 16 ans, je suis une personne stable, j'ai travaillé 16 ans pour une entreprise, directeur, ensuite directeur principal, 5 ans pour une autre entreprise. Là, j'ai eu une opportunité, je me suis parti en affaires, je me suis aperçu que de la sollicitation, c'était pas mon fort, même si je suis une personne reconnue pour mon haut niveau de service à la clientèle. Donc, j'essaie de revenir dans le marché. Puis là, j'ai même suivi une formation pour être une certification Lean Six Sigma, Green Bell et tout. Tu sais, je me mets vraiment là, dans la tendance.
Ah, là, vous venez de Maxime Villemur et le seul autour de la table qui a compris les derniers mots.
Oui, ouais, j'ai une...
Ah, toi aussi, Guillaume! Ah, ouais. Bon, mais juste moi, d'abord.
J'ai la certification, donc je sais
c'est
exactement
quoi, ça? C'est quoi ça? C'est des certifications de codage?
D'amélioration continue puis d'optimisation de processus.
Comment ça s'appelle?
Lean Six Sigma.
Ah, OK. Ouais.
Ben écoute, moi, ce que je pourrais te dire, ce serait peut-être une stratégie, ce serait de continuer de chercher l'emploi qui t'intéresse, mais peut-être essayer d'aller sur des sites de freelancer pour prendre des gigs en attendant. Ça te permettrait
mais
peut-être
comment
de rebâtir ta
ces
confiance.
Mais comment on les trouve, ces sites de freelancer, justement? Là?
Ben, il y en a plein. Il y a TaskRabbit, il y en a vraiment beaucoup, Upwork.
C'est-tu un endroit où on peut tous les trouver?
Google.
Ah oh oui, tu fais carrément site.
Ouais, on peut tout trouver sur Google, ouais, même un ami.
Ouais. C'est ça, ouais. Et puis, tu peux envoyer peut-être un CV à shareb.ca. Non, on va sur LinkedIn plutôt, Yannick.
Oui, je suis déjà sur LinkedIn, mais le problème, c'est que là, je suis rendu, je me dis, ben, peut-être mon profil, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, je me suis mis premium, donc il y a beaucoup de gens qui regardent mon profil, pouf, ça débloque pas. J'en suis rendu parce que je me suis testé par des firmes spécialisées en transition de carrière pour me donner des petits trucs d'entrevue ou refaire mon CV. J'en suis rendu à me dire, ben peut-être que la personne que j'avais est peut-être trop vieille, mon CV est monté peut-être trop à l'ancienne, tu sais, j'en sais plus, tu sais. Fait que,
mais spécifiquement, là, vous cherchez un poste de professionnel, un poste cadre, pouvez-vous nous en dire plus?
Moi, j'adore, en fait, ce qui est plate, c'est que dans les entrevues, j'ai passé des postes de directeur ou des postes de directeur adjoint, je me dis, on me demande quasiment de savoir configurer un réseau puis les firewalls et tout. Ouais. Mais moi, je suis un gestionnaire. Je suis reconnu comme étant une personne extrêmement... j'ai une gestion très collégiale. Mes employés me suivent. Je fais marcher mes équipes. La dernière emploi que j'ai eu, ça allait pas bien le département informatique, mais vraiment pas. J'ai remonté ça. Écoute, contre toute attente, les employés, les clients, moi je les appelle les clients, les utilisateurs étaient tous très satisfaits. Donc, moi, ma grande force, on dirait que ça compte pas. Il faut que tu sois.
C'est la gestion des ressources humaines, finalement. Mon Dieu, c'est ça qu'on cherche du monde bon là-dedans.
Et pourtant, c'est drôle parce que vous avez mentionné tantôt quelque chose d'intéressant. C'est que moi, quand j'étais tout jeune, quand j'ai commencé à être gestionnaire, j'osais pas engager des gens plus compétents que moi. Hein, j'avais peur qu'ils prennent mon emploi. Après, quand j'ai compris ça assez jeune, j'engageais toujours des gens plus compétents. Fait que moi, ma force, là, c'est quand vous avez des problèmes, venez me voir. Ouais. Quand un vice-président n'est pas satisfait, venez me voir. Moi, là, je suis un gars qui va faire... Tout va fonctionner. Mais ça,
arrêtez, on va m'appeler pour vous donner une job. Là,
moi, je pense, mon cher monsieur, là, que votre meilleur réseau, là, avec ce que vous me dites, votre meilleur réseau, c'est fort probablement vos anciens employés. Ceux qui vous ont aimé comme patron, là, aujourd'hui, je pense que ce serait important que ces gens-là sachent très bien ce que vous cherchez. Vos anciens clients internes aussi. Fait que moi, je pense que c'est vraiment ces gens-là qui peuvent vous donner un coup de main, surtout s'ils ont une bonne expérience avec vous.
Ouais. La question du feedback est importante. J'avais Joanne là, qui m'écrivait un mot là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de réponse des employeurs, Maxime?
On peut écrire proactivement et demander du feedback. Ouais. Je pense que ça serait la solution.
Si vous avez eu une entrevue, vous valez un appel.
Merci beaucoup à tous les deux.
Ça fait plaisir.